بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir de nous asseoir quelques instants pour parler de sa religion, pour parler du dîn d'Allah azza wa jal. Et l'objectif de ces programmes, quel que soit le contenu du programme, que ce soit tafsir, que ce soit hadith, que ce soit histoire des prophètes, l'objectif c'est de permettre aux musulmans d'apprendre sa religion, de connaître son dîn par le biais du Coran et par le biais des paroles prophétiques, car ces deux liens permettent aux musulmans de rester fermes dans sa foi et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'objectif final, à travers chaque acte d'adoration, n'importe quel ibadah que le musulman accomplit, son objectif en finalité, c'est de pouvoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'Allah azza wa jal est satisfait de lui. Son objectif, c'est que lorsque ses actions seront pesées dans la balance, il aura plus de bonnes actions que de péchés. L'objectif, c'est que par le biais des paroles d'Allah, des paroles du prophète alayhi salat wa salam, le mu'min et le tawfiq soient choisis par Allah azza wa jal pour réfléchir sur sa vie, comprendre les objectifs de sa vie et réfléchir surtout sur ses péchés, et qu'Allah lui donne tawfiq de demander pardon pour ses erreurs, de comprendre qu'on a tous une marge de progression, qu'on a besoin d'avancer dans la religion. On a besoin absolument, absolument d'avancer dans le dîn, parce que personne ne sait quelle est la réalité de la foi qu'il y a dans son cœur. Personne ne peut se vanter, ne peut se dire que j'ai un iman suffisant. Que si l'ange de la mort vient prendre mon âme dans 5 minutes, je suis prêt, il n'y a aucun souci. Non, personne n'a le niveau spirituel, n'a le niveau de foi nécessaire pour se dire que je suis prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment. Ça veut dire qu'on a tous besoin de faire un effort sur notre foi, sur notre iman. Et il n'y a rien de mieux pour ressourcer son iman que les paroles d'Allah et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Quand notre prophète alayhi salatu wassalam nous a dit taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitabullahi wa sunnati, je vous ai laissé, je vous ai légué deux choses. Si vous restez accroché à ces deux choses, vous ne serez jamais égaré. C'est le livre d'Allah et ma sunna, c'est-à-dire les paroles et les actions du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans cet objectif, on avait abordé donc un chapitre important concernant la résurrection, et on avait vu quel sera le sort des bons adorateurs d'Allah, des mu'mines, ceux qui avaient la foi en Allah dans leur cœur et qui ont vécu dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la crème des crèmes, les meilleurs mu'mines de tous les temps. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que ces meilleurs mu'mines de tous les temps, le jour de la résurrection, ils seront appelés pour être à l'abri de tout fitna, de tout azab, le sort qu'Allah Azza wa Jalla, la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accorder à ses mu'mines avant même l'accès au paradis. On ne parle même pas du Jannah. On parle de l'étape où les gens auront le soleil au-dessus de leur tête. Alors que parmi tous les êtres humains, il y aura donc une catégorie de personnes qui n'auront pas à souffrir de ces supplices du mahshar, de la résurrection. D'accord? Ce seront les personnes, les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la dhilla illa dhillu. Lorsque le seul endroit où on peut s'abriter des difficultés de la résurrection, ce sera l'ombre d'Allah, l'ombre du trône d'Allah azza wa jal, ben, il y aura dans la umma sept catégories de personnes qui sont appelées. Et on avait vu la dernière fois, la première de ces catégorie de personnes, c'est imamun adil, c'est un dirigeant, un roi, un souverain qui était juste. On avait plus ou moins développé, et c'était l'occasion de le faire par rapport à tout ce qui se passait dans le monde musulman. On a pu voir quelles sont les conditions, quels sont les devoirs du gouverneur lorsqu'Allah Ta'ala lui a accordé le pouvoir. On avait expliqué et on a vu que celui qui a su respecter les ordres d'Allah, qui a fait preuve d'équité et de justice, il aura un grade exceptionnel auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais celui qui a eu le pouvoir et qui a fait preuve d'injustice ou qui n'a pas tranché correctement, quelles seront les conséquences au jour de la résurrection? Pas mal de mises en garde. Le prophète Ali salatu wa sallam dit qu'Allah Ta'ala ne le regardera même pas. Allah subhanahu, le prophète Ali salatu wa sallam dit que mon shafa'a est haram sur lui. Je n'intercéderai jamais pour un roi qui a été injuste, etc., etc. Ça, on avait expliqué donc la dernière fois. La deuxième catégorie de personnes, et cela nous intéresse directement, on pourrait dire, une grande partie parmi nous, lorsque notre prophète alayhi salatu wa salam dit que parmi ces gens-là, رجل أثنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. Dans d'autres hadiths, شاب نشأ في طاعة الله, un jeune qui a grandi, qui a vécu dans l'obéissance d'Allah. Et dans ce deuxième hadith qu'on vient de citer, dans cette deuxième source, le prophète عليه الصلاة والسلام parle d'un homme أثنى شبابه, qui a consacré sa jeunesse, l'essentiel de sa jeunesse, وَنَشَاطَهُ, de sa force. Parce que quand on est jeune, on est fort. Quand on est jeune, on a toutes nos facultés physiques et mentales, d'accord ? فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire une personne qui a compris quel était l'objectif de sa création, même dans les moments où il a le plus envie d'aller vers les passions. Et on avait expliqué qu'il n'y a pas un moment de la vie où l'être humain a autant de force, mais également autant de pulsions qui viennent de Shaitan, qui le poussent vers ce qui est haram. Et celui qui a su se contrôler durant cette période de sa vie et rester ferme de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il n'est pas étonnant qu'Allah azza wa jal lui accorde une récompense exceptionnelle, parce qu'Allah azza wa jal rétribue également un musulman pour ses bonnes actions en fonction du contexte. En fonction du contexte. Quelqu'un qui obéit à Allah azza wa jal fermement dans un endroit où c'est extrêmement difficile d'obéir à Allah, par exemple, l'exemple qu'on cite tout le temps, c'est le plus simple, celui qui arrive à contrôler son regard, hein, à La Réunion, en France, ou dans des endroits où le fitna est partout, ben son grade ne sera pas le même que ce jeune qui contrôle son regard en habitant dans la ville sainte de Mecca ou de Medina, ou dans un endroit où les femmes sont couvertes correctement. Le degré de sacrifice de la deuxième personne est certes louable, mais cela ne nécessitait pas un effort exceptionnel. Tandis que celui qui habite dans un endroit où la fitna est partout, où il n'y a pas besoin de chercher la fitna est à votre porte, quand vous sortez de chez vous, elle est là, la fitna, et cette personne arrive quand même à contrôler son regard. Quand une personne vit dans une société où tout le monde consomme de l'intérêt, où tout le monde, où il voit les affiches publicitaires partout, où il voit les spots publicitaires qui poussent à la consommation, acheter telle voiture, acheter tel produit, même s'il n'a pas les moyens, on encourage la personne à s'endetter parce qu'on a besoin de faire voir aux gens que je suis bien, j'ai les moyens, je roule dans une belle voiture. Et donc cette personne qui, malgré ça, malgré ce contexte, hein, qui pousse vers cet autre péché, là on parle du riba, de l'intérêt, malgré ça il se dit que non, moi j'ai la crainte d'Allah dans mon cœur, moi je ne vais pas désobéir à mon Khaliq, à mon Bari, je préfère rouler dans une petite voiture qui a été achetée avec de l'argent licite, de l'argent haram, plutôt que de rouler dans une belle BM, dans une grosse Mercedes, mais qui a été achetée à crédit pour 10 ans, 11 ans, avec je ne sais combien d'intérêts, sachant quelles sont les conséquences du riba. Donc, en fonction du contexte, Allah Ta'ala rétribue également la personne. C'est un des paramètres très importants. Et donc, celui qui a vécu sa jeunesse, le moment où on a le plus envie d'aller vers les pulsions, d'aller vers les passions, il se contrôle à ce moment de sa vie. Comprenez qu'Allah Azza wa Jal va élever cette personne le jour de la résurrection. Et on avait rappelé la dernière fois ce hadith magnifique rapporté par Imam Tirmidhi rahimahullah wa Hassan al-Albani, et quand le prophète alayhi sallam dit que aucun être humain ne quittera le tribunal d'Allah Azza wa Jal sans répondre à 5 questions. Aucune personne ne quittera le tribunal d'Allah Azza wa Jal sans répondre à 5 questions. Et parmi les 5 questions que notre prophète alayhi sallat wa sallam a citées, wa an shababihi fi ma abla, concernant sa jeunesse, comment a-t-il passé sa jeunesse? Donc on a bien compris qu'il y a une différence fondamentale entre deux musulmans qui ont tous les deux 70 ans, qui ont tous les deux une grande barbe blanche et qui sont au premier saf de la masjid pour la salat al-isha. Mais le premier, il a fait les 400 coups et peut-être 4000 ou 400 000 coups même jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, 38 ans. Et puis à un moment donné, il s'est assagi, il s'est dit que maintenant c'est suffisant. C'est suffisant, soit il est réellement tawfiq, soit à un moment donné on ne l'acceptait plus en boîte parce qu'il était trop vieux, donc il s'est dit, ben, il faudra faire autre chose. Allez, on va voir Husn al-Dhann. À un moment donné, il a eu vraiment la guidée. Allah Ta'ala l'a fait comprendre quelle est l'énormité de ses erreurs, et il a eu la guidée, il est retourné dans le droit chemin. Il a fait les qadha, il a remplacé les prières qu'il avait délaissées, hein, il se laisse pousser la barbe, il essaie d'avoir le meilleur bref, alhamdoulilah, il revient. Et quand quelqu'un revient, Allah Ta'ala l'accueille, entre guillemets, les bras ouverts. Quand quelqu'un fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Jusqu'à la fin du hadith, celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en courant. C'est une métaphore pour qu'on comprenne que quand quelqu'un fait un effort, Allah Ta'ala ouvre les portes du tawfiq. Je connais une personne comme ça, c'est une expérience, hein, je ne vais pas donner les noms bien sûr, hein, quelqu'un qui, c'est récent, hein, qui était dans l'erreur, mais perpétuel, faisait une catégorie de péché, il n'arrivait pas à s'en sortir. Et puis à un moment donné, il s'est dit qu'il faut que j'arrête il faut que je trouve une solution. Et il a décidé de faire une bonne action, mais une bonne action qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et bi'idhnillah, par le biais de cette action, ça date de quelques jours. C'est un constat. Par le biais de cette bonne action, cette personne, alhamdoulilah, commençait à revenir sur le droit chemin, et le péché qui l'accablait, cette personne était obsédée, omnibulée. On pourrait parler, d'obsession, d'addictif à un péché particulier qu'on ne citera pas, mais par le biais de cette bonne action qu'il s'est démené pour faire quelque chose de bien, avec beaucoup de sincérité, chose qu'il ne faisait pas avant, une bonne action, mais là on voit que la personne arrive, c'est comme si que ce charawa, cette pulsion, cette passion qu'il y avait dans son cœur, qui était vraiment, quand on regarde la personne, dit qu'il ne s'en sortira jamais. Et du jour au lendemain, c'est comme si que son cœur est dégoûté de ce péché, et la personne arrive à prendre ses distances avec ses anciennes mauvaises habitudes, et la personne revient, petit peu, chouïa chouïa, vers le droit chemin. Donc quand on fait un pas vers Allah, Allah Ta'ala accepte la personne. Donc ce vieil homme, avec beaucoup de respect, cette vieille personne qui a fait les 400 000 coups, et qui à un moment donné revient sur le droit chemin, sa situation elle a l'air d'être identique, mais à côté de lui il y a une personne qui a le même âge, même situation, qui ressemble pareil, habillée pareil, mais à la différence c'est que cette personne, depuis son plus jeune âge, il est resté dans le droit chemin. Cette personne n'a jamais bu une gorgée d'alcool, cette personne n'a jamais fait la bise aux filles, oui, il existe ça. Cette personne n'est jamais sortie quand elle était jeune avec une fille, n'a jamais tenu la main d'une fille, cette personne n'a jamais mis un pied dans une boîte de nuit. Cette personne n'a jamais pris des écouteurs, écouté la musique volontairement. Je dis bien volontairement. Je ne dis pas qu'on est dans le bus, qu'on est dans les grandes surfaces. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est involontaire, qu'Allah pardonne. Il y a quelqu'un qui est resté dans le droit chemin, comme le hadith décrit, Sha'abun Nasha'a fi ta'atillah, qui est resté dans le droit chemin. Et ça, c'est pas impossible. Il ne faut pas se dire que c'est plus possible de le jouer. Non, là, wallah, je jure par Allah que celui qui veut se protéger, se préserver, il peut le faire. Et il n'y a pas besoin pour cela qu'il aille vivre dans un endroit éloigné. Il n'y a pas besoin d'aller vers l'ascétisme, vers le retrait complet de toutes les de la ville, de la communauté, de la société, pour rester de l'adoration d'Allah. Une personne peut vivre au centre-ville de Saint-Denis, habiter la rue Maréchal Leclerc, la rue Jules Aubert, la rue de Paris, la rue de je ne sais quoi, fréquenter le comte de Lille, le Belle-Pierre, le Vavasseur ou ailleurs, mais rester dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et il y aura encore plus de valeur à son sacrifice. Parce qu'il fréquente le lycée, parce qu'il faut bien qu'il vive, qu'il ait des études, qu'il ait un diplôme pour travailler, etc. Il fréquente les endroits où le fitna est omniprésent, mais il arrive à se préserver, à se protéger. Et comment une personne arrive à se protéger dans un tel milieu? Il y a des fois où on se dit qu'on a un discours fataliste, on dit oui, mais c'est fini, de nos jours, c'est plus possible. Et moi, ce qui m'agace, ce qui m'énerve, ce qui me donne la grattelle, c'est quand on voit certains anciens qui, respectables avec leur tenue, c'est pas des savants, ils n'ont pas la connaissance malheureusement, et pour eux, non, il faut que les jeunes se fréquentent, il faut que garçons et filles se fréquentent. Quand on fait des programmes mixtes et qu'on sépare, mais non, ils sont pas contents. Non, il faut laisser les jeunes garçons et les jeunes filles se fréquenter, au moins il y aura demande en mariage, au moins il y aura... Oui, mais mon cher tonton, mon cher dada, mon cher, je ne sais pas comment on va les appeler, il se fut peut-être une époque, en 1940, en 1950, en 1960, un garçon voit une fille, il trouve que la fille est belle, et il va demander à ses parents d'aller voir les parents de notre personne et de faire une demande en mariage. Mais ça, c'était il y a 35 ans, il y a 40 ans. Maintenant, un jeune homme qui voit une jeune fille qui est belle, qui est attrayante, qui est attirante, etc., il ne va pas passer par le parent, le grand-parent, l'aïeul, non, fini tout ça. Il est bête direct dans le plat. Il va voir la fille, première conversation, machin, Facebook, MSN, et puis c'est parti. Et puis on rentre dans le cercle vicieux du zina étape par étape. Et Wallah Musta'an, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que les mentalités ont changé. Pourquoi les mentalités ont changé? On expliquait dernièrement vous avez dit sur Facebook, c'est pas une référence, mais oui, sur Facebook, qu'il y a une mondialisation des fitnas. Les fitnas à La Réunion, c'est les mêmes fitnas qu'en France, c'est les mêmes fitnas qu'à New York, c'est les mêmes fitnas qu'à Miami ou alors dans n'importe quel pays. Les fitnas sont pareils. Parce que il y a les alliés de Shaitan qui ont tout fait pour amener le fitna partout, et le fitna malheureusement est installé. Donc pour répondre à la question qu'on disait tout à l'heure, oui, il est tout à fait possible de vivre dans un endroit où il y a des fitnas et de rester ferme. Et comment donc rester ferme quand une personne régulièrement demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger, de le préserver des fitna, et qu'il fait ses adhkars quotidiens. Il lit ce que notre prophète alayhi salat wa salam avait enseigné, qu'est-ce que le musulman doit lire. Il lit son Coran régulièrement et il essaie de comprendre sa lecture de Coran. Il essaie, c'est pas juste lire, parce qu'il y a plein de gens qui lisent le Coran. Il y a plein de huffaz. Il y a plein de gens qui ont la science, qui connaissent le Coran par cœur, mais celui qui médite, qui essaie de comprendre, qui essaie de savoir qu'est-ce qu'Allah Ta'ala est en train de me dire à moi, musulman, à chaque fois que je vois Ya ayyuhalladhina amanu, ce discours s'adresse à moi, Ibrahim, à toi, Faisal, à toi, Junaid, à toi, Ismail, Imran, Abdullah, Ishaq. Chaque musulman est interpellé par Ya ayyuhalladhina amanu. Mais quel inconscient, hein, sans être méchant, comment peut-on être aussi inconscient que mémoriser, connaître Alif Lam Mim jusqu'à An-Nas avec je ne sais pas combien de Ya ayyuhalladhina amanu il y a de le Coran, et qu'on ne s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il dit à travers ces 6000, je ne sais pas, ce nombre de versets. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit dans tous ces versets? Hada. Donc celui qui recherche la connaissance, celui qui essaie de se rapprocher d'Allah, qui fait ses adhkars, qui lit ses du'as, ses ad'iyah, celui qui lit les ayats du Coran, yani qui essaie de se protéger par les bonnes actions, qui fait le qiyam ul-layl et qui dans la nuit se lève et qui demande à Allah de le protéger, de protéger sa foi, cette personne-là est aimée par Allah. Cette personne est aimée par Allah. Et quand Allah aime une personne, Allah ne va pas lui accorder directement la richesse, l'honneur, c'est pas ça, parce que ces choses-là ne sont pas importantes pour Allah. Vous savez le hadith qui dit que si ce dunya avait plus de valeur qu'une akhtar, que aywa, alors Allah Ta'ala n'aurait pas accordé quoi
cette
ils vont trop la cause, mon frère, il faut écouter le hadith. Allah Ta'ala n'aurait pas accordé une gorgée d'eau à celui qui ne croit pas en lui. Hada. C'est-à-dire que ce dunya, c'est bien, ces bâtiments, ces grosses voitures, c'est tout ça, tout ce qui nous fait rêver, pour Allah, ça n'a aucune valeur. Ça ne compte pas. C'est comme de la saleté, c'est comme la saleté que vous avez sous vos chaussures. Quand vous avez quelqu'un, vous avez dit, attends, mais dans un bon cadeau, là, je vais honorer quelqu'un. Ou tiens, vieux, je sais ça tout d'un aller. Mon frère, vous lui donnez quelque chose qui a de la valeur, un parfum, quelque chose de bien, de beau. Pour Allah, Azza wa Jal, c'est quoi la plus belle des choses? C'est d'accorder le iman et plus que ça, les hauts degrés de iman à la personne, chose qui lui permettra d'accéder facilement au Jannah. Jannah qui a été créée par Allah Azza wa Jal directement. Donc Allah Ta'ala va protéger cette personne. Allah Ta'ala va protéger la foi de cette personne. Allah Ta'ala va faire en sorte que cette personne sera muwaffaq, sera acceptée par Allah. Et quand quelqu'un est accepté par Allah, Allah lui ouvre les portes des bonnes actions et Allah Ta'ala lui ferme les portes des péchés. Maraliqa kulli shay. Allah Ta'ala lui ferme les portes des péchés, que il ne fera pas de péché. Les asbab de péché, les choses qui amènent vers les erreurs, les intermédiaires, ne viendront pas vers lui. Une jolie femme, une jolie fille, qu'elle est Akhtar, comment il dit ça? Une jolie fille qui va voir cette personne, Allah va faire en sorte qu'elle n'ira pas vers cette personne. C'est pas qu'il est vilain, c'est pas qu'il n'a pas la cote, c'est que Allah va le protéger. Il sera sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Vous savez tous l'histoire de Ka'b, radiallahu anhu, à la bataille de aïe aïe Allah. De Tabouk. Wa ala thalathati alladhina, vous les mal placés, vous les dans langue. Wa ala thalathati alladhina dorbay. C'est encore hadith du Coran. Wa ala thalathati alladhina khulifu. C'est trois personnes qui n'ont pas participé à la bataille de Tabouk. D'accord? Parmi eux, il y avait Ka'b, radiallahu ta'ala anhu. Et on l'a déjà expliqué en plusieurs reprises, mais c'est un rappel pour moi et pour nous ici, inshallah. Pour le commentaire hadith, il dit que, le texte du hadith dit qu'à un moment donné, sa famille avait essayé de le convaincre de ne pas dire la vérité au prophète alayhi salat wa salam. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas accompagné l'armée des musulmans dès les premiers jours. Il avait dit qu'il y a plein de gens qui sont en train de dire au prophète que j'avais un udhr, j'avais une raison valable et le prophète les avait pardonnés. Toi aussi dis la même chose. Et tu es pas n'importe qui, tu fais partie des Ahl Badr, des gens qui ont combattu lors de la bataille de Badr, c'est-à-dire les meilleurs des mu'mines de tous les temps.
Ces 313 musulmans-là, c'est les meilleurs musulmans de tous les temps. Il n'y a rien, il n'y a personne qui va dépasser le iman jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est la crème des crèmes. C'est avec eux qu'on veut être le jour de la résurrection. C'est avec ces gens-là qu'on aimerait être ressuscité, qu'on aimerait accéder au paradis. Ça, c'est la consécration pour un musulman. Et donc, ils ont essayé de lui dire, dis au prophète que tu avais une excuse valable. Et Ka'b dit qu'à un moment donné, j'allais le dire. Mais Allah Azza wa Jal a guidé mon cœur. Allah Ta'ala a guidé mon cœur, a guidé mes pas. Et Allah m'a donné tawfiq de dire la vérité au prophète alayhi salatu wa salam. De ne pas mentir comme sa famille, sa tribu avait essayé de le persuader. Et en commentaire, ça c'est très important. Le prophète alayhi salatu wa salam, les muhadithines disent quand quelqu'un est aimé par Allah, quand quelqu'un fait partie des adorateurs fidèles d'Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala le protège. Allah Ta'ala fait que la personne ne sombre pas dans les péchés, dans les erreurs, dans les pièges de Shaytan. Et donc Allah Ta'ala a protégé Ka'b. Fait en sorte qu'il n'accomplit pas de choses qui lui seront nuisibles et qui auront des conséquences. Donc pareil, une personne peut être jeune, être lycéen, être universitaire, mais rester dans l'obéissance d'Allah. Et je vous assure qu'il y en a. Je connais des exemples de personnes qui, quand ils ont été jeunes, ils ont été au lycée, n'ont jamais touché une fille. Jamais fait la bise à une fille sauf accidentellement. Accidentellement, c'est quand? C'est pour le jour de la rentrée, le tantin vient bisou direct. On ne peut pas éviter. On peut pas faire un croche-pied, une prise de catch, etc. L'aplatir au sol, c'est pas correct. D'accord? Accidentellement, Allah pardonne. Mais volontairement, comme beaucoup de musulmans, Allah musta'an. Il y a des fois, je le dis, vous savez, j'ai tout le temps dit la même chose, mais c'est une réalité. Il y a une personne qui sort Salatul Fajr. Salatul Fajr en diamant, il s'est levé, il est venu la prière, Fajr, il va acheter le pain, il voit la boulangère, bonjour madame, donne la main. Ou il fait la bise encore, bon c'est rare, mais il donne la main. Ya Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, ne touchez jamais la main d'une femme, jamais de la vie. C'est pas parce qu'elle est impure, là, wallah, c'est que l'homme et la femme ne doivent pas avoir de contact physique, s'ils ne sont pas proches ou qu'il y a un lien de parenté. Maintenant, là aussi, il y a des cas vraiment où vous êtes pris de court. Puis en fonction du iman, chacun il sait comment il gère, comment il refuse, comment il s'excuse ou autre, mais volontairement comme ça, là, wallah. Donc, pour revenir, pour pas trop s'étaler, une personne peut rester dans ce genre d'environnement et être ferme de l'adoration d'Allah. Et ce genre d'exemple, il y en a. Et j'espère que ceux qui ont eu ce courage de rester dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance d'Allah, malgré leur jeune âge, malgré le milieu qu'ils fréquentaient, qu'Allah Ta'ala les accordera ce rang sous le trône, sous l'ombre de son trône, le jour de la résurrection. Et tout ça, c'était un peu d'introduction. Maintenant, on va passer au sujet, Inch'Allah, en 20 minutes. Hein. On va pas être trop long ce soir, malgré que Isha et tout. Regardez, on est à combien? Quand on parle d'Ajjal, d'Imam Mehdi, il y a plein de gens. Il y avait plein de gens. Maintenant qu'on parle d'autre chose, ça veut dire que c'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas compris. C'est pas parce que c'est moi qui fais ou c'est un. Non, c'est pas notre problème, ça, c'est qui parle. Le but, c'est qu'on comprenne que dans le majlis, on parle d'Allah, on parle du Coran et du Hadith, wassalam. À la fin du majlis, nos péchés sont pardonnés. Déjà, on a gagné quelque chose. Même si on n'a pas écouté, même si on a somnolé, nos péchés sont pardonnés. Et puis, c'est un moyen de se ressourcer. Entendre les paroles d'Allah et de son prophète, ça, c'est des choses qui renforcent le cœur, qui renforcent le iman de le cœur. Et donc, où est-ce qu'on voulait en venir aujourd'hui? C'est pour qu'on comprenne que la place du jeûne dans l'islam, c'est pas juste des vertus. C'est pas uniquement de dire que celui qui a su rester ferme, il aura telle récompense, tel grade, tel honneur, le jour de la résurrection et telle place dans le paradis. Ce n'est pas que ça. En plus d'avoir ces promesses de récompense, notre prophète alayhi salatu wassalam, à travers son vécu, à travers la sirah, on comprend que le jeûne a une place fondamentale de le din. C'est le pilier du din. Le jeûne, c'est le pilier du din, c'est le pilier de la religion. Si on analyse la sirah, l'histoire de notre prophète alayhi salatu wassalam, et principalement l'ahd al-makki, la période mécoise. Les premières années, c'était les années les plus difficiles. Où il y a les gens qui ont dû quitter Mecca pour aller à Madina. C'est-à-dire, dans cette tranche de 13 années, il y a eu les meilleurs mu'mines. Ceux qui ont accepté l'islam de cette période, ce sont les meilleurs, ce sont les muhajirines. Ils ont un grade, un rang supérieur, même Ansar, supérieur à ceux qui vont venir après eux, ceux qui n'ont pas fait le hijjah, ceux qui vont venir après eux. Et donc, notre prophète, alayhi salatu wassalam, à travers son vécu, on voit que les personnes qui ont accepté le message de notre prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient tous jeunes. C'est-à-dire ces personnes qui ont soutenu le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était seul, alors qu'il était avec Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu uniquement et avec Khadija radiallahu anha, la plupart, on pourrait dire 95% de ces personnes, 90% de ces personnes, c'était des gens qui étaient jeunes. Et on avait donné l'âge de quelques sahaba la dernière fois, on avait vu que Abu Bakr il avait presque l'âge du prophète alayhi salatu wassalam. Omar ibn al-Khattab était âgé de 26 ans. Ali ibn Abi Talib était âgé de 18 ans. Mus'ab ibn Umair, on connaît qu'il était jeune. On connaît également que Uthman ibn Affan avait à peu près 20 ans. Sa'd ibn Abi Waqqas avait 17 ans. Ali ibn Abi Talib, on vient de dire. Et même ceux qui étaient à Madina, ceux qui ont accepté l'islam à Madina, la plupart d'entre eux également étaient jeunes. Et après, il y avait quelques anciens, comme Hamza, l'oncle du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était âgé, comme par exemple Suhaib al-Rumi, Ali Yasir. Ali Yasser, on connaît l'histoire de la famille de Ali Yasser. Les parents, hein, ils étaient eux, c'était des parents qui étaient âgés. Mais si on regarde les autres personnes, ceux qui étaient vraiment au centre qui avaient un rôle essentiel, hein, pour soutenir le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam et pour faire passer son message, ils étaient essentiellement jeunes. Et il y a une citation magnifique de Hafsa bint Sirin, rahimahullah, elle dit que Ya ma'ashara al-shabab, i'amalu, fa inni ra'aytu al-amala fi al-shababi huwa al-quwwa. Elle dit, oh les jeunes, faites les bonnes actions, parce que j'ai vu que les bonnes actions accomplies dans la jeunesse ont une force. Les bonnes actions accomplies quand on est jeune, ça a une force spéciale. Fashamsu la tamla'u an-nahara fi akhirihi kama tamla'uhu fi awwalihi. De même, enfin, une métaphore, on va essayer de traduire. Sachez que le soleil, hein, n'éclaire pas autant à la fin de la journée qu'en début de journée. Sachez que le soleil n'a pas autant d'éclat en fin de journée qu'il n'a d'éclat au début du jour. À 8h, 9h, mashallah, le soleil, alhamdulillah. Quand on arrive vers 17h30, 18h, il y a encore du soleil, mais ça n'éclaire plus trop. Ça veut dire quoi? À travers la métaphore Hafsa qu'elle nous dit, elle dit que quand on est jeune, les actions qu'on va faire, il y a une portée. La da'wa qu'un jeune va faire, ou les bonnes actions qu'un jeune va faire, ça a un poids extraordinaire. Et beaucoup plus de valeur également pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset Alladina stajabu lillahi wa rasuli, hein, ceux qui ont accepté à l'appel d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam, comme on a dit, c'était ses premiers musulmans. Cette génération de sahaba était exclusivement ou essentiellement des jeunes. Donc on a vu qu'ils étaient, c'était vraiment le ciment, le pilier de la société. Et même avant l'islam, quand on analyse l'histoire d'Ashab al-Kahf, les gens de la grotte, إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية. C'était des jeunes. Et l'histoire de ces jeunes-là, c'est exceptionnel. Ils ont quitté leur village où ils avaient tout uniquement parce qu'ils voulaient rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, chose qu'ils ne pouvaient pas faire en restant dans cet endroit. Et donc ils se sont isolés pour fuir le péché, pour fuir les sources de fitna. Et tellement Allah azza wa jal a apprécié le sacrifice que jusqu'à la fin des temps, les gens vont lire leur histoire dans le Coran. Allah Ta'ala a immortalisé le sacrifice de ces jeunes en mettant leur histoire dans le Coran, et jusqu'à la fin des temps, les gens vont lire l'histoire de ces personnes. Et c'était des jeunes, innahum fityatun amanu bi rabbihim, c'était des jeunes personnes qui ont eu foi en Allah, et Allah Ta'ala leur a accordé encore plus de guider. Également, regardez, ça c'était une étape extrêmement importante. Quand le prophète alayhi salatu wassalam recevait la révélation, comment est-ce qu'il pouvait le transmettre aux sahaba? C'était par le biais d'un enfant. D'un enfant, hein, si je ne me trompe pas, il avait entre 11 et 12 ans. C'était le fils de Al-Arqam qui avait ouvert sa maison pour accueillir le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans, et ce qui était donc la première madrasa, la première école de l'islam, hein, et si je ne me trompe pas, c'était près d'une des deux montagnes, soit près de la montagne de Safa, soit près de la montagne de Marwa. Hada. Et regardez même à la fin des temps, puis je pense qu'on va s'arrêter, les exemples on va les garder pour la prochaine fois, on en est à 20 à 30 minutes. Regardez même à la fin des temps, à l'époque de Dajjal, hein, à l'époque de Dajjal, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam explique que Dajjal va approcher la ville sainte de Madina, mais il ne pourra pas y accéder parce qu'il y aura des malaïkas qui vont le chasser. Et à un moment donné, il y aura une personne qui va le défier. Une personne qui voudra montrer à l'humanité que lui c'est Dajjal et que tout ce qu'il peut faire comme miracle, hein, ce ne sont pas des choses véridiques, ce ne sont que des pièges de shaitan, c'est des fitna. Et la personne qui va l'affronter qui va être tranché en deux par Dajjal, et que Dajjal va donc séparer son corps en deux, marcher entre les deux parties de son corps, et ensuite lui redonner vie par ordre d'Allah, c'est Allah qui lui accorde ce pouvoir, et qui va dire maintenant tu reconnais que c'est moi ton Dieu, je t'ai donné la mort, et je te redonne la vie, et que cette personne va dire maintenant j'ai encore plus de conviction que c'est toi Dajjal. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous avait annoncé qu'un homme viendra à la fin des temps, et il fera ce miracle. Et à partir de ce moment, Dajjal n'aura plus le pouvoir de donner la vie et la mort. Allah Ta'ala va lui retirer son pouvoir. Il aura le pouvoir au début, quand il va prêcher la fausseté, jusqu'à ce que cette personne soit sacrifiée. Et après ça, Allah Ta'ala reprend son pouvoir, parce que il va essayer de tuer une autre fois la personne, mais Allah Ta'ala va l'empêcher, va ôter le pouvoir à Dajjal. Et cette personne qui va oser affronter Dajjal avec toute son armée, c'est qui ? Ce sera un jeune qui viendra de Al-Madinah. Un jeune également. Donc au début, c'est les jeunes qui ont porté l'étendard de l'islam. Et regardez l'histoire de Moussa ibn Umair, il n'y a pas besoin de raconter. Par la sunna, on verra qui a tenu, on parlait de l'étendard au sens figuré, maintenant même au sens propre. Il a tenu le raya, l'étendard de l'islam pendant la bataille, jusqu'à ce qu'on lui coupe la main droite, la main gauche. Il l'a tenu entre ses dents jusqu'à ce qu'on l'exécute et qu'il meure. Shahid fi sabilillah. Les jeunes ont tenu l'étendard de l'islam au début et à la fin des temps. Les plus grands exploits seront également accompli par les jeunes. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de voir l'histoire de quelques jeunes sahabas. On ne va pas rentrer dans des grandes histoires interminables, mais par exemple dans la vie de Ali ibn Abi Talib, de Zayd radiallahu anhu, etc., de cet sahaba connu, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait d'exceptionnel. Et on va voir que même certains de ces sahabas étaient exposés à des fitnas. Quand on voit l'exemple de Mus'ab ibn Umair radiallahu ta'ala anhu, c'était un jeune homme riche qui avait des vêtements, qui avait une valeur inestimable. Il mettait des parfums que quand il passait dans un endroit, dans une rue, les gens, ils savaient que Mus'ab était passé par là parce que c'était un parfum extraordinaire qui restait. C'était un jeune homme riche. Et quand c'est un jeune homme qui est riche, automatiquement il y a les fitnas, les femmes sont attirées. Mais on va voir comment du jour au lendemain, quand il a compris la réalité de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qu'Allah a guidé son cœur, il va changer de cap complètement. Il va passer de la richesse à la pauvreté jusqu'à ce que le jour où il meurt, il n'y a rien pour couvrir son corps, il y a un morceau de tissu, quand on couvre sa tête, ses pieds se découvrent. Ça c'est le sacrifice de ces jeunes, et c'est grâce à eux bi'idhnillah qu'on est musulman. Parce que s'il n'y avait pas cette première génération qui était solide autour du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y aurait pas eu d'autres personnes qui auraient accepté l'islam après. Les gens se seraient dit que cet homme là est seul depuis 10 ans, 13 ans qu'il prêche, il n'y a personne avec lui, ça veut dire que son message n'est pas vrai. Mais comme il y a eu des sahabas qui sont restés avec lui dès le départ, qui sont restés fermes, c'est bi'idhnillah grâce à leur sacrifice que d'autres personnes ont compris que le nombre des musulmans augmente, et que donc il y a une vérité à travers ce message, et que le nombre de musulmans a gonflé jusqu'à ce qu'il y ait un certain nombre de sahaba, jusqu'à ce que les sahaba après ils ont quitté l'Arabie, ils ont été faits à la da'wah dans différents pays, dans différentes contrées, et que nous aujourd'hui nous sommes musulmans. Donc notre islam, déjà nous le devons au sacrifice de cette première génération de sahaba qui était essentiellement shabab, qui était essentiellement des jeunes. Donc Allah nous a fait de comprendre, et qu'Allah nous accorde ces qualités, ceux qui sont encore jeunes. J'avais demandé à certains collègues, certains alim, quelle est la définition du jeune, c'est jusqu'à quel âge. Moi je pensais que c'était jusqu'à 33 ans, mon opinion c'était 33 ans, parce que 33 ans c'est l'âge des gens du paradis, mais la majorité, on a encore des recherches à faire, on va demander l'avis d'autres personnes, mais la majorité des ulama d'ici disent que non, on peut dire que c'est jusqu'à l'âge de 40 ans, parce que 40 ans c'est la sagesse, non, on peut dire Inch'Allah. Donc si on a moins de 40 ans, il y a encore temps de se rattraper et de se décider de rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant avant de terminer, on avait deux points rapides, questions d'actualité abordées. Le premier point, vous avez certainement compris de quoi on va parler, de cette tuerie qui a eu lieu à Toulouse. Hier, avant-hier, on a tous suivi les médias, qu'est-ce qui s'est passé? Une personne qui a abattu un homme et trois enfants. Si je ne me trompe pas, ces enfants étaient âgés de 3 ans, 7 ans et 9 ans, à peu près comme ça. Quand j'entends ça, j'ai trois enfants et ils ont 3 ans à peu près, 7 ans à peu près et 9 ans à peu près, un an de décalage près. Et il faut bien comprendre que face au drame, face à la perte d'un enfant, on n'a pas à juger la personne. Dire que oui, mais lui de toute façon c'est un yahoud, il ne faut qu'en aucun cas que ce genre de pensée n'effleure l'esprit d'un musulman. Que de se dire que si c'était un musulman, j'aurais été triste. Si c'était un musulman, j'aurais respecté, j'aurais eu de la peine pour lui, j'aurais allé la minute de silence, j'aurais fait. Mais comme c'est pas un musulman, là, wallah. Parce que avant tout, nous sommes des insans. Et quand vous voyez un papa pleurer, qu'il ait un bonnet sur la tête, ou qu'il ait une kippa sur la tête, ou qu'il ait un turban sikh sur la tête, ou qu'il, je ne sais pas, quel que soit le signe religieux, quand un papa pleure pour la perte d'un enfant, c'est quelque chose qui doit toucher n'importe quel être humain. Parce que mettez-vous dans le cas de cette personne à qui on annonce que son fils a été tué, son enfant de 3 ans, ou son enfant de 7 ans, ou son enfant de 9 ans a été tué à la sortie de l'école. Ça, c'est une tragédie, ça, c'est un drame. Puis je sais également qu'il y en a qui se disent, j'en ai vu certains. C'est un statut sur les murs, hein, sur Facebook. Il y en a qui disent que oui, mais pour 3 enfants, parce qu'ils sont de confession juive, il y a eu toute cette mise en scène, il y a eu les politiciens, il y a eu une minute de silence et tout. Mais combien d'enfants palestiniens ils meurent tous les jours? Ça, il n'y a pas de minute de silence. Écoutez, le sang d'un innocent ne peut être compensé par le sang d'un autre innocent. C'est pas parce qu'effectivement il y a des jeunes musulmans en Palestine, des enfants qui meurent tous les jours. C'est pas parce qu'il y a des enfants qui meurent tous les jours en Palestine qu'on peut se réjouir qu'il y ait des gens d'autres communautés, hein, qui sont peut-être issus de la même religion, avec qui il y a des problèmes en Palestine, que s'il y a des enfants parmi eux qui meurent, on doit s'en réjouir. Na'oudhou billah, jamais de la vie. On n'oublie pas que notre prophète alayhi salatu wassalam, il était rahmatan lil, une bénédiction pour les deux mondes, pour l'alamin, pardon, pas pour les deux mondes, pour l'humanité, excusez-moi, une bénédiction pour l'humanité. Le prophète alayhi salatu wassalam avait un jeune voisin, un enfant qui était de confession juive et qui était malade, et le prophète alayhi salatu wassalam était parti le voir pour l'encourager face à l'épreuve, face à la maladie, face à la mort. Il n'y a pas de distinction, d'accord. Nous devons tous, hein, être solidaires et être touchés, parce que c'est le sang d'innocents, hein, qui a coulé. Et j'espère, comme on l'a dit tout à l'heure, j'avais commencé une phrase, j'espère que quand on va découvrir, hein, le meurtrier, j'espère que ce ne soit pas un musulman. J'espère que ce ne soit pas une personne qui a essayé d'importer le conflit de la Palestine, ou le conflit de la Syrie, ou le conflit de l'Afghanistan en France, et qui s'est permis de faire justice et de tuer ces personnes. Parce que au cas, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais si c'est quelqu'un qui a fait ça, sachez que c'est contraire à l'enseignement de notre prophète alayhi salatu wassalam, parce que comme on a dit, on ne venge pas les innocents par le sang des innocents. Ah bah, ça c'était un premier point. Et donc, nous demandons à Allah Azza wa Jal, hein, de faire sa justice, et nous espérons vraiment que cette personne-là ne soit pas un musulman, que ce soit vraiment un xénophobe ou quelqu'un qui était déséquilibré. Et puis vous savez, il y a eu deux événements également qui ont touché la communauté musulmane en France depuis une semaine. Il y a eu, pas en France, mais en Europe on va dire, il y a eu une mosquée chiite en Belgique qui a été brûlée. D'accord. Et puis il y a eu une personne qui est entrée dans une mosquée en France, je ne sais pas dans quelle ville, et qui a tué une personne à coup de batte de baseball. Et j'avais espoir que celui qui avait brûlé la mosquée chiite, c'était un islamophobe, pour que cet accident malheureux soit un exemple et qu'on comprenne qu'une fois pour tout, il faut condamner l'islamophobie. C'est malheureusement quand il y a des morts qu'on finit par prendre conscience que là on a atteint une limite où il faut dire attention, arrêtez. Il ne faut plus laisser ce genre de message se développer. Mais malheureusement, celui qui a fait ça, ce n'était pas un islamophobe, c'était, il paraît, c'est un musulman, hein, qui en voulait à la communauté chiite, etc., etc. Lutte intercommunautaire, Allah musta'an. Et vraiment, ils disent que c'était, je crois qu'ils ont dit que c'était des salafistes de Belgique, hein, c'est ce que j'ai cru lire dans les journaux. J'ai pas relu après, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Allez, même si on va dire ça, c'est quoi un salaf? Un salaf, hein, on entend parler, c'est quelqu'un qui dit que moi je suis le Coran et la Sunna. Et il ne va pas donner de priorité à un madhab. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui va dire je suis la parole d'Allah, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et même s'il y a des avis qui divergent, etc., moi je suis le Coran et le Hadith, d'accord. Et donc quelqu'un qui suit ce raisonnement, en aucun cas il n'irait tuer un chiite ou brûler une mosquée chiite, parce que même à l'époque où il y a eu des chiites dans l'histoire de l'islam, il n'a jamais été dit que les musulmans avaient pour ordre de livrer la guerre à ces gens-là. D'ailleurs, même à notre époque en Arabie Saoudite, il y a une communauté chiite qui existe, et en aucun cas, malgré que c'est un pays où la charia est appliquée, malgré ça, il n'a jamais été demandé aux musulmans d'aller porter atteinte à la vie de ces gens. Leur croyance, c'est entre eux et Allah. Et personne n'a interféré dedans. On fait la da'wah, la personne accepte. Alhamdoulilah, si on n'accepte pas, c'est son problème. Allah va le juger, le jour des comptes. Mais en aucun cas, c'est contraire à la méthode prophétique que de livrer combat à une personne qui n'a pas les mêmes croyances que nous. Et quand le premier jour qu'il y a eu cet incendie, Je me suis dit que, subhanallah, ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé, à l'époque d'Hazrat Ali, radiallahu anhu, lorsque l'armée de Ali et l'armée de Muawiyah, radiallahu anhuma, ils s'étaient rencontrés et les deux chefs avaient une discussion pour trouver un terrain d'entente pour mettre fin à ces divergences. Et que les hypocrites qui étaient dans les deux camps, ils ont vu que, apparemment, ils avaient trouvé une solution et qu'il n'y aurait pas de bataille. Et donc, ils se sont mis d'accord que demain, après le Fajr, on démarre les hostilités. On fait comme si que vous nous avez attaqués et nous on riposte. Et là, il y aura une suite aveugle, les gens ils vont suivre, il y aura la bataille qui va être livrée. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Donc, il y a des fois où j'ai peur qu'il y a des faux attentats qui sont commis et l'objectif c'est d'élever sunnites contre chiites ou telle communauté contre telle communauté, ce qui ferait le plaisir et le bonheur des a'da' al-islam, de l'ennemi de l'islam. Donc, dans ce genre d'événement, il faut toujours garder son sang-froid et de se dire que notre prophète alayhi salatu wasalam n'a jamais porté atteinte à une personne qui n'avait pas les mêmes convictions quand on n'était pas en période de guerre. Quand le prophète sallam habitait à Madina, il y avait des Yahoud, les trois tribus Yahoud qui habitaient, le prophète sallam ne les a pas combattus en tant qu'Yahoud. Quand ils ont combattu les musulmans, là il y a eu des batailles, mais jamais le prophète alayhi salatu wasalam n'a ordonné aux musulmans de tuer quelqu'un qui n'a pas la même conviction que nous. Et puis le dernier point, bon ça on va être un peu plus bref, vous savez également qu'il y a un grand fitna qui arrive à La Réunion dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est quoi? Ce fameux groupe de rap de France qui vient à La Réunion qui s'appelle comment? Médine. Vous avez entendu parler de Médine, Muslim Don't Panic, etc. D'accord? Et il faut qu'on comprenne bien quelque chose. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a appris que la musique c'est haram. Ça, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à redire, il n'y a pas à revoir ou à réviser cette règle. Ça, c'est une interdiction religieuse, d'accord. Et nous savons également que parmi les armes qu'Allah Azzawajal a accordées à Shaytan, à Iblis, c'est le chant. Et avec ce chant, Iblis a la possibilité d'égarer une grande quantité de personnes. Et dans cette affaire, il dit que la musique yumbitu nifaqa fil qalb fait pousser l'hypocrisie dans le cœur comme l'eau fait pousser la récolte et les fleurs, les fruits, les arbres, etc. D'accord? En aucun cas, ne pas tomber dans ce piège de Shaitan. En aucun cas. Il ne faut pas se dire que comme lui, c'est un musulman, puisque ce rappeur est un musulman. D'accord? Il est barbu. Le message qu'il fait passer, c'est un message parfois religieux. Il essaie de ramener la izza, l'honneur du musulman. Et c'est pas parce que son groupe s'appelle Médine, en plus en référence à Madina ou autre chose, qu'on se dit que c'est licite, c'est autorisé, on peut aller le voir. Il n'y a aucune différence à aller l'écouter, à écouter Médine, que d'écouter les Welleuses, les Welleuses de reggae ou je ne sais pas quoi là, de Bob Marley qui sont à La Réunion en ce moment. Il n'y a strictement aucune différence. Les deux restent haram. Et qu'on comprenne bien que notre prophète alayhi salatu wassalam nous avait annoncé qu'à la fin des temps, les gens vont inverser les choses. Ceux qui sont illicites, ils vont le considérer comme licite. Comme des gens, ils vont boire l'alcool sous d'autres noms. Mais voilà ce genre de choses. Ce qui est interdit, les gens vont changer le nom et dire que non, ça c'est licite, ça c'est du slam ou je sais pas, c'est du quoi, tu vois. Du moment qu'il y a des instruments, on est dans le haram. Et là, il n'y a pas de divergence d'opinion à ce propos. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que quand on voit sur Facebook, il y a des jeunes, qui ont déjà acheté leur billet. Ils se disent quoi, ma fille prend le billet, il est là, nous va aller ensemble, etc. Wallah musta'an. Il y a quelqu'un qui prend ses écouteurs, qui écoute sa musique. Il a son péché. Mais quand il voit des gens, il ne l'écoute pas. Il fait son péché, mais il a une certaine pudeur. Il a une certaine haya. Il sait que ce que je fais, c'est mal, et je ne vais pas désobéir à Allah devant les gens. Et puis, il y a celui qui va au concert. Celui qui va au concert, c'est quelqu'un qui, non seulement, il ne considère pas ce qu'il fait comme mauvais, comme haram, mais en plus, il n'a pas honte de désobéir à Allah Azza wa Jal ouvertement. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a mis en garde qu'Allah Ta'ala peut pardonner à tout le monde, illa al-mujahirun, sauf ceux qui font les péchés ouvertement. Et quelqu'un qui fait un péché ouvertement, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte d'Allah dans son cœur par rapport à ce péché. Donc, quelqu'un qui achète son ticket et qui le dit ouvertement, ou même s'il ne le dit pas ouvertement, mais qui va dans cet endroit, il fait le péché ouvertement. Et il est dans un endroit où il y a la la'nat d'Allah qui descend, où il y a les shayatines qui sont concentrés, parce qu'il y a la voix de shaytan qui essaie de détourner les gens, et donc les shayatines sont heureux dans ce genre d'endroit. Comme dans un majlis ici, c'est les malaïka qui sont présents, les shayatines ne viennent pas dans ce genre d'assemblée, c'est les shayatines qui sont là, et la la'nat d'Allah, la malédiction d'Allah descend. Un mu'min, comment peut-il aller dans ce genre d'endroit? Puis on va aller plus loin, même si, parfois il y a des gens qui ont le Coran dans leur cœur aussi, et ils nous font comprendre qu'ils sont intéressés. Quelqu'un qui parle le Coran de son cœur, comment peut-il aller de ce genre d'endroit? D'une manière générale, hein, le message qu'on voulait faire passer, c'est qu'on mette en garde nos frères, nos sœurs, les jeunes, les moins jeunes, que ce groupe sphère, ce sont des musulmans, mais en aucun cas, cela ne veut dire que leur musique est illicite. Qu'on doit faire extrêmement attention, qu'Allah Ta'ala nous protège. Qu'Allah protège nos jeunes, nous protège nous-mêmes de tous les fitnas et qu'on arrive à vivre dans le maximum de muhabba et de paix. Jazakumullah khair. Wa tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.